Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, bonsoir à tous. On va ouvrir une nouvelle page de notre Bible et nous allons rejoindre l'évangile de Luc au chapitre 13 et nous allons commenter un récit, un texte. Donc, je rappelle Luc chapitre 13, verset 10. À partir du verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsque Jésus la vit, il lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison, un jour de sabbat dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Voilà. Eh bien, nous allons une nouvelle fois plonger nos regards dans ce récit, parce que c'est certainement des récits les plus commentés parmi les histoires de l'Évangile. Mais je pense qu'il est intéressant que nous puissions tout à nouveau y revenir et prendre la mesure de ce que Jésus a opéré dans ce contexte particulier. Ça se passe un jour de sabbat, c'est un jour sacré pour les Juifs, qui plus est dans une synagogue, où là, eh bien, une femme qui souffre d'une infirmité depuis tant d'années va être l'objet de la compassion et du miracle de Dieu, avec tout simplement, eh bien, une levée de contestation parce que Jésus a guéri une femme qui était souffrante. Il nous est parlé de ses adversaires. Il nous est parlé de l'autorité religieuse que l'on appelle chef de synagogue indigné. Tout cela parce que le bien était fait, figurez-vous. Parce que Jésus a fait du bien pour une femme qui attendait depuis si longtemps. Une malheureuse qui ne pouvait pas vivre normalement comme tout le monde. Et c'est Jésus qui est venu la délivrer. Alors, on va voir un petit peu dans le contexte de ce récit, eh bien tout ce que nous pouvons en tirer finalement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En effet, beaucoup de choses à dire. Nous avons là donc cette pauvre femme qui est prisonnière de quelque chose qui l'invalide. C'est-elle réellement ce qui se passe en elle qui fait qu'elle ne peut pas se redresser depuis tant d'années? Aujourd'hui, avec les investigations médicales, scanners et autres, IRM, on aurait peut-être vu ce qui se passait. Mais entrevoir les choses, et puis apporter une réponse, une solution, un remède, une guérison, c'est autre chose. Et nous voyons, parce que la Bible nous le dit, que cette femme était atteinte d'un mal étrange et bizarre. Parce qu'il est parlé de possession, il est parlé d'un esprit. Alors c'est vrai que le monde médical pourrait peut-être sourire de ces affirmations en disant « mais non, il doit y avoir quelque chose d'autre, c'est pas possible, c'est pas un esprit ». Et pourtant, la Bible est le livre qui nous révèle, eh bien là, différents états qui existent dans notre univers. À commencer par le monde des hommes, le monde matériel, avec toutes les raisons qui peuvent être expliquées, et toutes celles qui restent inconnues naturellement à la connaissance ou à l'intelligence de cette humanité. Et puis, il y a un monde de l'esprit, monde divin, qui est souvent décrié et rejeté. Il y a un autre monde qui, celui-là, eh bien, est aussi une réalité prenante dans notre monde, sur notre planète, et un monde qui s'appuie sur l'occultisme, la magie, l'astrologie, ce monde de ténèbres, qui assurément peut faire peur. Alors on l'a relégué à travers toutes sortes d'histoires qui ont cours encore aujourd'hui, des contes, des légendes, où là il y a un ennemi qui travaille dans l'anonymat, qui ne se montre jamais, mais qui est agissant et opérant, non pas pour contribuer au bien et au bonheur des hommes, mais pour leur destruction. Il nous est donné un nom qui apparaît dans notre texte. Eh bien, il nous est dit simplement « Satan ». Voilà. Alors là aussi, c'est quelquefois, pour beaucoup de gens, c'est risible. Satan, le diable, n'existe pas. Alors, il faut véritablement avoir une grande foi pour ne pas croire à l'existence, ou rejeter plutôt l'existence de Satan. Parce que quand on voit la réalité du mal, de ce qui se perpétue depuis des siècles et des siècles, qui occasionne des drames, qui occasionne des divisions, des crimes, la guerre, la mort, la souffrance, et toutes sortes de choses du même cru, alors faut vraiment, vraiment avoir une grande foi pour dire que le diable n'existe pas. Et pourtant, c'est consigné noir sur blanc dans l'Évangile et particulièrement dans notre texte. Alors cette femme, donc, ceci dit, était infirme et elle traînait en longueur sans peut-être avoir aucun espoir à son époque, dans son temps, et comme peut-être aujourd'hui, si l'on ne discerne pas l'origine spirituelle du mal, eh bien cette femme traînait depuis tant d'années. Elle était courbée, nous dit le chroniqueur, et elle ne pouvait pas se redresser. Vous savez, je voudrais ouvrir une parenthèse plus large encore que la condition physique et la condition spirituelle de cette femme. C'est que sur le plan moral, eh bien, il y a bien des gens qui sont courbés et qui ne peuvent pas se relever, d'une façon ou d'une autre, à travers toutes sortes d'atavismes, toutes sortes de situations, voulues ou non, causées d'une manière souvent étrange, et qui sont courbées, qui voudraient bien se redresser, mais qui sont cassées. Voilà. Ils ne peuvent pas, finalement, eh bien là, avoir une vie normale. On pourrait peut-être le dire dans cette expression, une vie normale. On pourrait peut-être leur poser mille et une questions sur l'origine de ce mal-être, de cette condition chronique, puisque on a vu la longueur de la maladie de celle-ci, et de pouvoir donner toutes sortes d'avancées des hypothèses. Il y a ceci, il y a cela, et puis finalement, n'aboutir que à constater que malgré les belles paroles, malgré les belles ordonnances ou les belles prescriptions, eh bien la personne est toujours courbée et elle ne peut pas se relever. Courbée par le chagrin, courbée par une maladie physique, c'était le cas. Courbée peut-être par un accident de parcours dans l'existence, traumatisant, courbé peut-être par une anomalie morale, par quelque chose qui est difficile à diagnostiquer et qui fait que vous avez des gens qui vivent malheureux. C'est pas le bonheur, c'est son contraire. Des gens qui disent, eh bien moi mon problème numéro un, c'est ceci. Et si je pouvais trouver véritablement la solution? Et vous savez que souvent en désespoir de cause, lorsque les gens sont comme cela depuis tant de temps, et qui ne peuvent aucunement se relever par eux-mêmes ou avec l'aide des hommes, eh bien souvent ça les amène à perdre espoir. Et ils se disent, mon problème numéro un, c'est pas ceci, c'est pas cela, parce que c'est secondaire pour moi. Mais le problème numéro un de ma vie, c'est ceci et cela. Ça peut être une courbure dans un état affectif dont nous n'arrivons pas finalement à trouver la solution. Vous savez, les gens souffrent, hein, travers peut-être quelque chose de sentimental, courbé sentimentalement. Enfin, on pourrait multiplier à l'infini quand on connaît l'océan de souffrance et de misère qui existe parmi les hommes. Nous voyons que, par la suite, le texte nous dit ceci de Jésus. Jésus l'a vu et il lui adressa la parole et il lui a dit ces mots, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Qui est Jésus pour pouvoir dire de telles choses? Quelqu'un qui arrive et qui va prononcer de telles paroles sur une femme qui est là dans cette synagogue, qui assiste certainement et bien là à la cérémonie religieuse, petite femme, par le fait d'être courbée, sur le côté ou sur le rang des femmes, parce que c'était comme ça, il y avait les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, ça existe encore, hein, dans certaines situations religieuses. Et Jésus la voit quand même, petite femme, courbée, elle serait passée inaperçue pour n'importe quel visiteur de la synagogue ce jour-là, mais Jésus la voit. Et ça, c'est déjà quelque chose. C'est déjà tellement important que Jésus nous voit. Combien de fois, certainement, dans sa vie, en se réveillant le matin, elle avait espéré que ça serait le jour où elle pourrait se redresser. Peut-être avait fait des efforts désespérés, dans une sorte de gymnastique, peut-être dans sa tête, psychologique ou mentale, en disant, voilà, je fais l'effort, mais elle n'y arrivait jamais. Elle ne pouvait pas y arriver. Donc, c'était pas les efforts de ses semblables, malgré peut-être toute la commisération que l'on pouvait avoir pour elle, parce qu'elle devait être bien connue. Ce n'était pas ses efforts personnels qui faisaient que elle avait obtenu un mieux ou qu'elle pouvait vivre différemment. Non. Et il semblerait qu'avec l'âge, ça devait certainement encore se courber de plus en plus. Voilà. Qu'est-ce qui pouvait bloquer son dos malade? Qu'est-ce qui pouvait faire? Alors la parole que Jésus va lui adresser, c'est la solution. Il va s'adresser à elle, il la voit, il s'adresse à elle et il va lui donner une injonction d'une parole que l'on appelle tout simplement le don de guérison. Ça existe, ça. Ça nous est décrit par l'apôtre Paul, manifesté dans tous les évangiles par Jésus lui-même, mais expliqué, nous pourrions dire, doctrinalement et théologiquement à travers la première épître aux Corinthiens, où Paul dit, où il nous parle des dons du Saint-Esprit. Entre autres, eh bien, il y a les dons vocaux, ceux que nous connaissons et que nous partageons lorsque nous sommes réunis en culte le dimanche matin, à travers la prophétie, à travers le parler en langue et son interprétation. Il y a les dons de puissance, c'est un don de puissance qui est manifesté ici, à travers tout simplement le don du miracle, le don de guérison et le don de foi. On pourrait dire que là, tout est réuni. Miracle, guérison et foi. Et puis, il y a également une autre catégorie que l'on appelle les dons de révélation. La parole de connaissance, qui est véhiculée souvent à travers un témoignage ou à travers une prédication comme ce soir, sans que celui qui parle sache réellement. Mais ce qui est important, c'est que Dieu se sert. Des agents humains que nous sommes, comme Dieu s'est servi de Jésus, mais Jésus, c'est autrement que nous, pour manifester cette puissance Alors il lui dit cette parole, parce que vous reconnaîtrez, c'est toujours à travers la parole que la foi vient. Cette femme, la seule chose qui lui est demandée, c'est d'entendre, d'écouter et de croire. Et Jésus va faire marcher finalement, eh bien, ce fonctionnement, ce processus de délivrance, en disant à cette femme, pour qu'elle ne se trompe pas, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Qu'est-ce qu'elle va faire de cette parole? Qu'est-ce que nous pouvons faire d'une parole telle que celle que nous avons devant les yeux, alors que c'est Dieu qui nous parle, qui s'adresse à nous, qui connaît notre détresse, qui connaît notre courbure, qui connaît finalement notre misère, notre infirmité, notre souffrance et notre maladie, et qui nous adresse la même parole, « Tu es délivré de ton infirmité. » C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas dans un an, c'est maintenant. Et nous, comment réagissons-nous? Comment cette femme a-t-elle réagi? Comment a-t-elle réagi? Jésus va s'approcher d'elle pour lui donner peut-être une aide supplémentaire. Il lui a donné la parole et ensuite, il lui imposa les mains. C'est le grand classique de nos réunions lorsque nous nous retrouvons ensemble. On fait d'abord entendre la parole de Dieu avec tout ce qu'elle peut contenir de délivrance, d'espérance, de foi et d'espoir. Chacun diversement l'entend, ou nous l'entendons tous ensemble, mais nous la recevons peut-être diversement en fonction des nécessités, des besoins, des impératifs, et en fonction, naturellement, de la foi que nous ajoutons à ce qui est dit. Non pas dans la parole du prédicateur, mais dans la parole de Dieu. Et Dieu parle doublement. Il parle par sa parole, et il parle également par son Saint-Esprit au fond de notre cœur, parfois pour amplifier la parole que nous venons d'entendre, et nous donner encore le coup de main, excusez-moi l'expression, c'est un peu trivial, mais nous donner encore l'aide, nous donner le secours, nous donner tout ce qui nous est nécessaire pour ajouter à cette parole ce que nous pourrions appeler l'œuvre du Saint-Esprit, qui est le don de la foi, qui vient comme ça, surnaturellement, qui vient à un moment donné, comme nous en avons quelquefois fait l'expérience personnellement. Ce sont les moments les plus beaux que nous ayons connus dans notre histoire et notre cheminement de chrétien. C'est beau, hein? C'est formidable. Parce que on peut être courbé, cassé, à terre. Et puis d'un seul coup, vous recevez une parole comme ça qui vous arrive. Après avoir longtemps et longtemps pleuré, c'est une parole qui réjouit, c'est une parole qui nous donne de la paix de Dieu, de la paix du ciel. C'est certainement ce qui s'est passé pour cette femme. Il lui a imposé les mains. Tout simplement. Et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Ce qu'elle ne pouvait pas faire quelques instants auparavant, elle l'a fait. Ça faisait 18 ans. C'est quand même pas une petite affaire. 18 ans qu'elle regardait quand elle marchait, quand elle se promenait ou quand elle est d'un endroit à un autre, même dans sa propre maison, elle n'avait qu'une perspective et un horizon très limité. C'était tout simplement ses pieds et le sol autour d'elle. Qu'est-ce que vous voulez? Tu as déjà vu le ciel, mais je ne peux pas regarder le ciel parce que je suis dans cet état. Eh bien là, le ciel s'est ouvert et elle a pu le regarder pour la première fois depuis 18 ans. C'est le miracle de Dieu. C'est à la fois, je le répète, don de foi, le don du miracle, don de guérison. Et ça existe encore aujourd'hui. Prêchons et continuons à prêcher l'évangile, ça se fera et ça se refera parce que ça s'est fait et ça peut se faire encore ce soir dans nos besoins. À l'instant, elle se redressa et là, elle a glorifié Dieu. Elle avait certainement sa vie religieuse, son petit train-train de venir régulièrement. C'était une pieuse. C'était une femme qui craignait Dieu. Elle venait régulièrement à la synagogue. Plus personne depuis bien longtemps faisait attention à elle, mais ça n'avait pas d'importance. Elle venait parce que celui qu'elle venait rencontrer, c'était Dieu dans la synagogue. Elle venait prier son Dieu, le Dieu d'Israël. Mais là, spontanément, compte tenu de cette grâce qui est survenue sur elle, c'était pas une prière, c'était véritablement une glorification de tout son cœur, de toute son âme, de tout son corps aussi, parce que son corps était capable de pouvoir regarder enfin le ciel et de lui dire « Mais mon Dieu, je te bénis, je sais que c'est toi qui m'as guéri, c'est toi qui m'as délivré, c'est toi qui as fait… » je vais dire le mot maintenant parce qu'on va rentrer dans un nouveau sujet. c'est toi qui as fait éclater mes chaînes et qui as détaché mes liens. On y arrive. Un bien pour l'autre, un mal pour eux. Un autre. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ce jour-là et non pas le jour du sabbat. » Quelle belle affaire, monsieur le chef de synagogue. Pharisien probablement, je ne sais pas. Et tout ce que vous voudrez, docteur de la loi, à l'esprit étroit, qui avait réduit cette belle parole du sabbat, qui normalement était un jour de fête et un jour de repos, mais qui avait été étouffé dans l'esprit de cet homme, comme dans beaucoup, par l'étroitesse de son esprit. Lui, il ne voyait que règle sur règle, précepte sur précepte, là où il n'y avait que la mort. Parce que le jour du sabbat, c'était quand même un jour de vie, qui devait communiquer la vie. Alors, il est indigné, ce brave. Et il ne va pas s'adresser directement à Jésus. Il est très courageux, hein. Il va s'adresser à la foule. Parce que ça, c'est sa clientèle, vous comprenez. Une clientèle qu'il tient, qu'il maintient, qu'il garde dans la méconnaissance de Dieu, du Dieu vivant, du Dieu qui est tout puissant. À travers le carcan de la religion, de sa religion. À travers, là, eh bien, ces gens qui rentrent dans sa maison parce que c'est sa synagogue. On se demande où est passé Dieu dans cette affaire. Il s'attache beaucoup plus à toutes ces choses extérieures, rituelles et traditionnelles qu'au Dieu vivant et vrai. À lui aussi, il est courbé. Lui aussi ne peut pas se redresser. Mais c'est pas la même courbure. C'est pas le même état. Lui aussi, on pourrait dire qu'il est possédé d'un esprit. Et il a autant besoin de guérison que cette brave femme, mais il ne le sait pas. Et même si on lui proposait d'être guéri, il ne voudrait pas. Parce que ça ferait un trop grand chambardement dans sa vie, vous vous rendez compte? Pourquoi changer? C'est effrayant de changer, hein. C'est terrible de devoir changer. Alors, il va s'adresser à la foule, il va lui faire des réprimandes, des admonestations. 6 jours pour travailler, alors vous travaillez. Mais alors que vous n'allez quand même pas venir maintenant en plus pour vous faire guérir le jour du sabbat. Quand est-ce qu'ils vont venir se faire guérir puisqu'ils travaillent tous les autres jours de la semaine? La logique. Ah, c'était à l'époque où il n'y avait pas de syndicat, hein. Naturellement. Ne venez pas un jour de sabbat, vous déshonorez votre Dieu. C'est un sacrilège ce que vous faites. Moi, je vois pas en quoi cette pauvre femme a travaillé, finalement, ce jour-là pour être guérie. Elle a entendu une parole, elle y a cru, elle s'est relevée. Méfiez-vous, hein. Demain, c'est samedi, hein. Vous restez couché toute la journée et vous ne bougez pas. Voilà. Ben oui, mais on voit bien quelquefois les aberrations qu'il peut y avoir dans le cœur de l'homme quand il est courbé. Alors, Jésus va répondre à cela. Il va dire hypocrite. Et je crois que Jésus a raison quand même, hein. Hypocrite, lui répond le Seigneur. C'est pas le chef de la synagogue s'est adressé à tout le monde, mais Jésus va lui répondre à lui. Hypocrite, lui répondit Jésus, est-ce que chacun de vous, quand il y a un jour de sabbat et qu'il voit son bétail, son bœuf ou son âne ou n'importe quel animal domestique, même si c'est un jour de sabbat, ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Vous n'allez pas le laisser mourir de soif quand il y a un grand temps chaud? Vous allez sortir le jour du sabbat, vous allez prendre une longe, vous allez prendre l'âne ou le bœuf, et puis s'il y a là peut-être 200 mètres pour aller jusqu'au puits, jusqu'à l'abreuvoir, eh bien vous allez quand même travailler ce jour-là. Parce que vous voulez pas perdre votre bête. Certainement pas. Vos intérêts passent avant. Alors, si vous faites passer vos intérêts pour une bête, un âne ou un bœuf, dites donc, n'y avait-il pas quelqu'un qui est plus qu'un bœuf et un âne, qui attend depuis tant et tant d'années, qui a passé la moitié de sa vie dans cette condition, mais là, vous voulez vraiment pas finalement faire le moindre geste pour manifester votre compassion et votre charité à cette pauvre femme qui souffre, parce que pour vous, à vos yeux, même si elle est dans votre synagogue, eh bien, elle vaut même pas un bœuf et un âne. Vous êtes des hypocrites, dit Jésus. Et nous en arrivons justement au sujet. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, vous savez, c'était la sœur de Zachée. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Luc chapitre 19, à la fin de l'histoire de Zachée, il nous est dit, voilà un homme qui est un fils d'Abraham aussi. Parce que vous savez que tous les fils et les filles d'Abraham, ce sont des gens qui ont la foi. Pour ça qu'il l'a appelé comme ça. Vous, Israël, qui êtes courbé dans votre religion sans avoir aucune perspective parce que vous ne voulez pas regarder autre part, vous ne voulez pas vous laisser inonder par l'Esprit de Dieu, le Dieu vivant, le Dieu qui régénère et le Dieu qui vous donne la paix et la joie, vous préférez rester dans l'obscurité courbée? Mais vous n'êtes pas d'Israël, vous n'êtes pas des fils d'Abraham, vous êtes des fils d'un père de quelqu'un d'autre. Parce que Jésus ne se gênera pas de leur dire, vous êtes des meurtriers, des menteurs. Hein? Mais cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan, ah, ce personnage, tenait lié depuis 18 ans, ne fa-t-il pas la délivrer de cette chaîne, même le jour de sabbat? Vous êtes sans cœur. Voilà. S'il y avait quelqu'un qui devait être indigné, c'était Jésus qui devait être indigné, et certainement pas le chef de la synagogue. Fausse indignation. Une fille d'Abraham. Et elle était tenue par le prince de ce monde de ténèbres et des esprits, en opposition constante et permanente à Dieu et à créatures de Dieu que sont les hommes. Les pauvres hommes. Cette femme en particulier. Et il la tenait liée. Vous voulez encore un autre terme? Il la tenait enchaînée. Il la tenait emmurée. Il la tenait en captivité, il la tenait en prison, dans son corps, parce que le corps peut être une prison. Les sentiments de notre cœur peuvent être une prison. Nos passions peuvent être une prison. Notre âme, avec toutes ses turbulences, nos pensées peuvent être une prison. Notre esprit peut être en prison également. Le diable est expert en la matière de mettre les hommes créature de Dieu en prison, d'une façon ou d'une autre. Il la tenait liée depuis si longtemps, et Jésus avec cette question, parce que Jésus sait très bien ce qu'il a fait, ce n'est pas une affirmation, mais c'est une interrogation, précisément à l'adresse de ce chef de synagogue, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour de sabbat? Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Il ne pouvait rien dire. Je voudrais, avant de terminer, parler des liens. Qu'est-ce que sont que ces liens dont il nous est dit dans la Bible? L'apôtre Paul nous dira dans Corinthiens, « Je ne me laisserai, il est chrétien, il est croyant, Paul, hein, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je ne me laisserai entraver dans ma foi, dans ma vie, dans le bonheur que Dieu me promet, dans l'équilibre qu'il m'offre, dans mon épanouissement, dans ma vie morale, dans ma vie spirituelle. Je ne me laisserai entraver par quoi que ce soit parce que Dieu est Dieu, et Dieu est mon libérateur et mon sauveur. » Alors on peut l'être physiquement, comme cette femme, mais c'est beaucoup plus difficile de prendre conscience quand nous le sommes moralement. Vous savez, ces atavismes que l'on appelle du péché, ces liens qui nous tiennent, qui ont fait leur demeure chez nous sans que nous nous apercevions, et qu'à travers, finalement, eh bien, notre manière d'être, notre état, notre façon de parler, notre façon d'agir et de réagir, nous trahissons parfois, les hommes trahissent parfois des liens et une domination sur leur vie, sans qu'ils sachent d'où ça vient. Mais ils sont courbés. Et ils ne peuvent pas aller par-delà une frontière parce qu'ils ne peuvent pas l'affronter. Une frontière, un mur, une muraille, une montagne. Et ils sont tenus dans la peur, dans des situations qui sont quelquefois obsessionnelles. Il y a les liens, je vais en faire peut-être un petit peu l'inventaire brièvement. Il y a les liens passionnels, on pourrait les appeler comme ça, à travers nos pensées que nous ne maîtrisons pas et qui s'en vont de droite et de gauche et qui, non seulement nous font du mal, mais peuvent faire du mal aussi aux autres quand nous les mettons à exécution. Il y a le sentiment, les pensées, les sentiments par rapport à notre imagination ou le souvenir. Il y a des souvenirs, quelquefois, qui nous rendent malheureux, qui nous courbent jusqu'à terre. Peut-être le souvenir des fautes que nous avons commises, où là notre conscience revient au galop et nous écrase. Ça peut être le souvenir, eh bien peut-être de gens que nous avons blessés, ou que peut-être nous avons été plus que cela, hein, on ne sait pas, et qui se traduisent par des mélancolies, des états de dépression et de tristesse, et d'un grand chagrin. Et les gens sont courbés, ils ne peuvent pas se redresser, parce qu'il faut qu'il y ait une main qui vienne d'ailleurs, une main divine, autrement, ben reste courbé. Il y a les liens occultes, que les gens souvent viennent chercher, courent après, sans savoir, innocemment, inconsciemment, que c'est un grand danger. C'est peut-être quelquefois des liens héréditaires. Alors, je ne veux pas trop faire de commentaires sur la question, mais quelquefois nous avons des sacrées hérédités physiques que nous avons héritées de nos pères, et puis voilà, ou morales, des tendances, toutes sortes de choses. Alors les liens occultes qui sont la conséquence parfois de l'idolâtrie et dont nous sommes quelquefois et bien tout simplement les héritiers, de la superstition, de toutes sortes de pratiques magiques. Il y a beaucoup de gens qui sont liés comme ça, qui sont profondément malheureux. Quand ça leur tombe dessus ou quand ça revient dessus au galop, je peux vous dire que ça les met par terre et ils sont courbés. Combien de confessions avons-nous eues? Des gens qui nous disent, vous savez, moi dans ma famille on a toujours trafiqué, on a fait des choses pas possibles. Et quand j'ai lu l'évangile, eh bien je me suis aperçu que c'était des choses qui étaient abominables aux yeux de Dieu. Et il y a toutes sortes de phénomènes qui se passent. Quelquefois, ils oseront vous dire, mais vous savez, à chaque génération, il y a toujours un suicide de quelqu'un dans la famille. Il y a eu ceci et cela, des morts inexpliquées, des accidents de la route et toutes sortes de choses. Ce sont des liens occultes que les gens ont été chercher, eux, peut-être par héritage, par hérédité, mais quelquefois, c'est eux-mêmes, ne le sachant pas, ils ont été faire des tractations. Et ils sont revenus avec des perturbations, des liens. Il n'y a que la Bible qui nous dit que c'est dangereux et qu'il ne faut pas toucher à ça. Mais il y a toujours la possibilité d'en être délivré si nous croyons que Jésus est notre délivrance et que nous lui demandons pardon et que nous lui remettons tout cela en disant « Seigneur, délivre-moi ». Mais le Seigneur est capable de nous délivrer. Hein. Il y a les liens propres aux individus, à nous-mêmes, relations avec des êtres qui ont joué un rôle déterminant dans notre vie, qui nous ont marqués profondément. Et pas dans le bien, dans le mal. Vous savez, aujourd'hui la société s'émeut et s'inquiète de tous ces enfants qui sont maltraités, qui sont violentés, auxquels on les expose à toutes sortes de choses et qui vont les marquer. Là aussi, nous avons entendu de sacrées histoires. Des gens qui sont malheureux. Parce que, il y a eu... Et ça les a courbés, ça les a cassés, ils ne peuvent plus se redresser par eux-mêmes. Et ils sont profondément malheureux. À travers des influences, à travers des suggestions de la pensée, à travers des idéologies, à travers toutes sortes de choses qui ont été perpétrées sur eux, des dominations, des paroles, des enseignements, des agissements, des comportements, où ils ont été finalement, eh bien, subordonnés, dominés, si vous aimez mieux. Et c'est difficile. Et souvent, les marquant profondément dans leur esprit, ne pouvant pas arriver et parvenir à croire, parce qu'ils sont tenus dans l'incrédulité. Eh oui, Moi, je dis qu'il y a des démons d'incrédulité, hein, pour empêcher les gens de venir à Jésus, de crier à Jésus. Mais là encore, l'incrédulité, eh bien, elle peut être balayée. Si véritablement nous disons, comme le père de cet enfant qui était épileptique, enfin en tous les cas, qui était dans un désordre moral et spirituel considérable, et il viendra, il comprendra en un instant, il dira à Jésus, mais si tu peux quelque chose pour mon fils, eh bien fais-le. Et Jésus lui dira, mais si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Et il répondra à ce père, oui, je crois, mais délivre-moi de mon incrédulité. Et voilà que ça se passe, et l'enfant est guéri. C'est un saisissement par la foi, là. On le comprend. Un lien, c'est ce qui nous retient, ce qui nous captive, ce qui paralyse une personne et qui l'empêche de vivre et de s'épanouir librement. Vous savez, la première libération que nous vivons, c'est lorsque nous nous convertissons, que nous demandons pardon à Dieu et que nous nous repentons de nos péchés et que nous demandons à Jésus de venir dans notre vie. Ça, c'est la porte d'entrée. C'est une porte royale. Et là, nous comprenons qu'il y a un autre décor, hein, qu'il y a une autre vie, qu'il y a un chemin royal, qu'il y a quelque chose de formidable qu'on appelle la vie. Parce qu'avant, nous ne vivions pas, nous existions avec tous ces problèmes qui encombraient notre âme, notre esprit, nos pensées. Parce que les liens ont pour but, comme Satan le fera sur cette femme pendant 18 ans, les liens conditionnent, ils asservissent et ils lient à des objets. Combien de gens sont liés à des objets superstitieux, des fétiches, à des habitudes qui les neutralisent et qui empêchent leur volonté de se déterminer. Regardez tous ces gens qui portent des gris-gris, qui portent des croix, qui portent toutes sortes de choses. Ils ne pourraient pas s'en séparer parce qu'ils se disent « mais je vais mourir ». Et on les tient dans la peur. La peur est aussi une courbure. La crainte est aussi une prison, un lien, une chaîne. Je ne peux pas me défaire dans mon esprit parce que je suis dominé par la crainte et la peur. Eh bien ça, c'est l'œuvre du diable. Parce que Jésus nous dit, lui qui vient, qui est le prince de la paix, qui est celui qui vient nous libérer, il nous dit toujours, ne crains point. Lui, il nous rassure, il nous appelle, il nous apaise. Il nous appelle à venir à lui. Parce qu'il est doux et humble de cœur, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous qui êtes courbés, vous qui êtes à ras terre, vous qui êtes complètement anéantis, eh bien voilà. Vous savez que le fétichisme, il existe, hein. La superstition, elle existe. Elle peut être occulto-religieuse. Elle peut avoir une connotation populaire. Elle peut avoir toutes sortes de choses. Mais elle lie les gens et elle les courbe. Avant de nous convertir, avant de me convertir. Je n'étais peut-être pas plus superstitieux qu'un autre, mais il y avait quand même quelques superstitions au fond de mon esprit, vous comprenez. Et à partir du moment où vraiment j'ai fait l'expérience que Jésus pouvait me libérer, me laver, me blanchir et m'affranchir, j'ai dit « terminé, c'est fini tout ça ». C'est là où j'ai commencé à vivre. Peut-être que l'on peut se reconnaître dans certains aspects. Jésus a laissé des ordres formels de libération. Je vous en livre un ou deux, simplement avant de terminer. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Ordre de libération dont nous avons rappelé la substance il y a quelques jours, alors que nous étions réunis ensemble. Jésus dira ces choses. Ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. Ouais. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors nous avons la capacité, si nous voulons croire, à la réalité de la promesse que Jésus nous donne, et bien que nous pouvons nous servir de la parole, de la même parole que je viens de vous lire, la même parole que cette femme a entendue, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité », parce que c'est une parole de vie, une parole vivante, si vous aimez mieux, on peut le dire de cette manière. Et quand vous lisez ce beau chapitre, quand il est dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus », et il l'est encore, parce que Dieu m'a oint. Il m'a donné l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Tous les pauvres courbés, tous les pauvres qui sont là, complètement aplatis sur la terre, et qui ne peuvent pas se redresser, eh bien c'est une bonne nouvelle à tous ces pauvres-là, si nous nous reconnaissons dans cette pauvreté. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, les aveugles, recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Ça, c'est la pression. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. Quand la personne liée réalise son emprise, parce que c'est une prise de conscience d'abord, et qu'elle demande ou qu'elle crie le secours à Dieu, au nom de Jésus-Christ, l'ennemi est forcé de battre en retraite et il lâche sa victime. C'est normal, c'est ce que nous avons vu. À partir du moment où cette femme a saisi, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité », que Jésus lui a imposé les mains pour l'encourager, probablement pour le voir de cette manière. Alors à ce moment-là, il nous est dit à l'instant, elle se redressa et elle glorifia Dieu. C'est pas plus difficile que ça, c'est pas de la magie, avec toutes sortes de signes, toutes sortes de démonstrations kabbalistiques et tout ce que vous voudrez. Rien du tout. La foi dans une parole. Et à ce moment-là, il y en a un qui va fuir. Oui. C'est celui qui tenait lié. Que Satan tenait lié depuis 18 ans. Un dernier mot. Dans l'épître de Jean, il est dit cette parole, chapitre 3, verset 8, premier épître de Jean, le Fils de Dieu. Et nous en avons la flagrante démonstration ce soir, le Fils de Dieu a paru. Il a paru dans l'histoire. Il a paru à cette femme, il a paru à cette femme dans cette synagogue ce jour-là. Mais pour nous qui sommes aujourd'hui, dans ce jour, eh bien Dieu, Jésus a paru pour détruire, je dis bien détruire, pulvériser les œuvres du diable. Que le Seigneur nous aide. Et apportons maintenant au Seigneur simplement nos liens, nos chaînes, nos murailles et nos montagnes infranchissables. Parlons-lui de tout ce qui se passe quelquefois tellement intime, tellement secret, ce jardin secret que nous avons, qui dans nos pensées, dans nos obsessions, dans nos sentiments dérivants ou nos sentiments mauvais, à travers toutes sortes de choses qui sont là dans notre vie d'homme, de lui dire, eh bien Seigneur, viens me délivrer, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé, libère-moi de mes liens et de mes chaînes, et vous savez que ça se fait. Le Seigneur est là. Je vous ai rappelé, les dons de l'Esprit, ce n'est pas pour rien. Le Seigneur agit, mais parle-lui-en. C'est pas facile à en parler à un homme. C'est pas facile d'aller voir peut-être un conducteur spirituel ou le pasteur et de lui dire, voilà, il y a eu ceci, il y a eu cela dans ma vie. Je veux bien le croire. Mais en tous les cas, vous pouvez en parler au Seigneur lorsque vous rentrez chez vous et que dans l'intimité de la prière en disant, mais Seigneur, mon éducation m'a complètement tordu. Je suis malheureux parce que je ne peux pas, finalement. Eh bien, j'ai toujours ces réminiscences de situations, de traumatismes, d'accidents, d'incidents dans mon enfance, dans mon adolescence et dans le cours de ma vie, par rapport à cette personne, par rapport à celle-ci, par rapport à celle-là. Nous sommes malheureux, mais le Seigneur veut véritablement nous rendre le bonheur. Aussitôt, cette femme se redressa et elle glorifia Dieu. Que Dieu nous bénisse. C'est pour vous, c'est pour chacun d'entre nous ce soir. Alors on va prier. Seigneur, nous voulons croire et te bénir, Seigneur, parce que nous croyons, Père éternel, que l'Évangile est annoncé, et l'Évangile est avant tout une bonne nouvelle. Seigneur, je veux te rendre grâce et te remercier de ce que l'Évangile est encore annoncé, de ce qu'il est encore proclamé, et ça, ce ne sont pas des histoires sans lendemain. C'est véritablement, Seigneur, eh bien là, quelque chose qui nous parle, qui nous parle à chacun d'entre nous, parce que ça va beaucoup plus loin qu'une écoute. Ça va plus loin que d'entendre, Seigneur, une parole. Ça nous ramène à nous-mêmes. Ça ne nous ramène pas à nous-mêmes d'une manière superficielle, mais ça nous amène à nous-mêmes au plus profond de nous, dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre volonté. Dans notre histoire, Seigneur, d'hier, l'histoire peut-être de l'enfance, l'histoire de notre adolescence, l'histoire de faute, l'histoire d'un péché, l'histoire des péchés, l'histoire d'erreurs, l'histoire, Seigneur, de toutes sortes commises, et qu'aujourd'hui, Seigneur, nous en prenons toute la mesure, et avec tout ce que cela a pu occasionner, peut-être aux autres, mais aussi à nous-mêmes, parce que le mal, eh bien, ne peut produire qu'un fruit, le mal. Eh bien, Seigneur, dans le nom de Jésus, tu es venu dire aux hommes que tu n'es pas là pour les condamner. Il y a des choses dont nous sommes réellement coupables, personnellement, et nous ne voulons pas tourner là à chercher des excuses et des prétextes. Seigneur, nous voulons tout simplement te dire, mais c'est vrai, Seigneur, c'est bien cela. Personne ne m'y a mis, je m'y suis mis tout seul. J'ai commis ceci et tout cela, et j'y ai pas été poussé parce que c'est comme ça. Et puis il y a des choses, Seigneur, qui sont peut-être encore beaucoup plus subtiles parce que nous avons été victimes, Seigneur, peut-être d'une situation qui est antérieure à notre histoire, qui vient, Seigneur, en effet, d'ailleurs, des gens peut-être méchants, des gens qui, en effet, Seigneur, eh bien, ont fait du mal. Et cette malédiction, eh bien, demeure, mais toi, tu es capable de lever la malédiction, puisque si nous saisissons ta parole, cette même parole nous dit que la malédiction sans cause n'aura aucun effet. Eh bien, Seigneur, c'est vrai qu'il y a bien des gens qui sont victimes de malédictions d'hier, dans le passé, dans l'histoire, familiale ou autre. Mais dont aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes tout à fait des victimes innocentes. Alors, cette malédiction, maintenant, elle est la plus courte. Parce que nous prenons conscience que si vraiment nous venons à Jésus, nous repentons de nos péchés, nous lui donnons notre vie, eh bien, nous avons changé de camp. Et notre vie va changer aussi. Alors, tu visites nos amis et tu les bénis, Seigneur. Nous croyons que le message que nous voulons recevoir ce soir, c'est toujours le même message. Et il est beau, il est magnifique. Il est engageant, il est encourageant et il est libérateur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. C'est ça ce soir, ce que tu nous as fait entendre. C'est cela, Seigneur. Alors qu'il en soit ainsi pour mes amis qui entendent cette parole, puis tous ceux, Seigneur, qui auront l'occasion de l'entendre et qui se reconnaîtront à travers une situation où ils sont courbés, ils ne peuvent pas se redresser. Mais en ton nom, Seigneur, nous te prions de les guérir de leurs infirmités, complètement et totalement, au nom de Jésus. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Alors maintenant, Jésus a vaincu, il a lié l'adversaire, et aujourd'hui nous avons par la prière de la foi la liberté de pouvoir délier, en effet, tous ceux et celles, eh bien, qui ont été tenus dans la domination, dans l'asservissement et dans l'oppression, au nom de Christ. Ils sont libérés, nous sommes libérés au nom de Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.